Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du SANS Internet Storm Center avec Didier Stevens. Bonjour Didier.
Bonjour Johan.
Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ?
Je suis Didier Stevens, belge flamand, et je suis un handler du Internet Storm Center depuis une bonne année, et je suis aussi un Microsoft MVP.
Merci Didier. Nous recevons également Xavier Mertens.
Bonjour à tous.
Bonjour Xavier, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ?
Eh bien, donc comme Didier, je suis belge, mais moi partie francophone du pays, et je suis également un handler de l'Internet Storm Center. Au niveau professionnel, je suis freelance tout simplement, donc je fais de la sécurité, et je suis également blogueur, assez actif sur Twitter, avec plein de projets à gauche, à droite, et donc je m'amuse pas mal, et également co-organiseur de la conférence de sécurité Brucon.
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse de ton blog ?
blog.routchel.be.
Et ton compte Twitter ?
Le compte Twitter, c'est XME, XMI. En fait, il est très facile de me retrouver parce que j'utilise tout le temps le même avatar qui est le Belgian Fish, donc le Blowfish, mais avec les couleurs du drapeau belge.
D'accord. Donc, aujourd'hui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Christophe Renard.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc, l'Internet Storm Center, qu'est-ce que c'est ?
Mais donc, l'Internet Storm Center est une organisation, ou plutôt un groupe de handlers qui a été créé, je crois, aux alentours de 2001, et qui a pour but de monitorer Internet et de remonter des informations utiles auprès des visiteurs et donc des utilisateurs du site web. De mémoire, je crois que l'initiative est venue suite à une vulnérabilité relativement importante. Je crois que c'était le worm qu'on appelait Lion qui affectait le name server bind. Donc à ce moment-là, il y a eu donc énormément de problèmes sur Internet. C'était assez intense. Et les gens à ce moment-là, donc du SANS, donc SANS, c'est une organisation qui est très connue pour ses trainings, par exemple, qui donne des trainings dans le monde entier avec certification tout orientée sécurité. Et donc les gens du SANS ont décidé un petit peu de suivre l'attaque, de monitorer ce qu'il se passait et de compiler les informations. Et suite à ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque part un manque de visibilité pour tout ce qui est attaque et que les gens étaient en attente de ça. Et c'est comme ça qu'est né l'Internet Storm Center qui aujourd'hui tourne sur base de volontaires qui sont appelés des handlers. Et il y en a, je crois, une bonne trentaine dans le monde entier, dont deux Belges qui sont actifs, Didier et moi-même.
Je viens juste de les compter, Xavier. On est vers 27. Non, 29.
27. Ah, 29, 29. Voilà.
Ouais. Oui, ce que je veux aussi ajouter, donc Xavier a dit monitorer l'Internet. Bon, c'est pas un monitoring général, c'est axé sur la sécurité. Et donc, on regarde tout ce qui peut être malveillant et impacter de façon négative l'Internet.
Alors, comment vous regardez tout ça ? Comment vous monitorez tout ça ?
La visibilité donc au niveau attaque et au niveau donc activité malicieuse entre guillemets sur Internet se fait via un réseau de honeypot. Il y a différents services qui sont fournis par l'ISC.
En bon français, on va dire malveillante.
OK. Malveillante, ça va.
Donc la malice, ça fait plutôt sourire, donc c'est un faux ami.
Pas de problème. Donc des activités malveillantes qui sont détectées via un réseau d'honeypot. Donc n'importe qui ayant la possibilité de faire tourner un honeypot sur son infrastructure peut le déployer et remonter chez nous les événements détectés. Et également le service qui est peut-être le plus connu qui s'appelle DeepShield, qui lui en fait est un service qui permet aux utilisateurs, toujours sur base volontaire, de remonter les événements détectés par leur firewall, appliance de sécurité, machine Linux, etc. Et donc toutes ces informations sont compilées, ce qui nous permet d'avoir une vulnérabilité, une visibilité, assez bonne de ce qui se passe. Les différents types d'informations que l'on peut remonter sont bien entendu les ports les plus actifs. Donc lorsqu'il y a une nouvelle vulnérabilité, je pense que c'était il y a quelques mois par exemple sur les routeurs Juniper, mais le réseau de HoneyPot SSH a pu remonter assez rapidement ce que cherchaient à faire les attaquants.
Donc ça, c'est le monitoring, donc une partie qui se fait automatiquement et tout ça. Mais ce qu'on a aussi, c'est que les gens peuvent nous contacter. Il y a une page sur l'Internet Storm Center pour poster un message. Les gens peuvent aussi nous envoyer des emails. Et c'est aussi une source très importante pour nous d'informations pour savoir ce qui se passe sur l'Internet.
D'accord. Alors, quels sont les services que vous proposez?
Alors, je crois que le service le plus important, c'est ce qu'ils appellent l'Infocon. Donc, qui est un petit peu comme ce qu'on pourrait appeler un niveau de défense, un petit peu comme les DEFCON, le niveau DEFCON que l'on voit dans certains films d'Hollywood, qui représente par une couleur le niveau de sécurité estimé d'Internet. Donc, il est en général vert, bien entendu, et il peut passer jaune, orange ou rouge. Sur le site, donc lorsqu'on va sur le site de l'Internet Storm Center, cet infocon est affiché directement, et il est également possible de voir un historique des changements de niveau de sécurité. J'ai regardé un petit peu avant l'enregistrement du podcast, et en fait, la dernière fois qu'il a changé de statut, donc il est passé au statut jaune, c'était au mois de janvier, si je me souviens bien, à cause d'une vulnérabilité 0D dans l'Adobe, le Flash Player d'Adobe. Il ne change pas très souvent parce que nous savons qu'aux États-Unis, surtout aux États-Unis, cet indicateur est vraiment monitoré avec attention, et que si on le change, automatiquement ça peut avoir un effet très négatif, parce que les gens vont vraiment, je vais pas dire paniquer, mais vont commencer à se poser des questions. Donc il faut vraiment avoir une discussion en interne très strict, en disant voilà, est-ce qu'on décide de changer le niveau de l'Infocon, oui, non, pourquoi, pour combien de temps, quand est-ce que l'on va le remettre au vert. Donc c'est un indicateur qui est relativement critique.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on a déjà eu que ce level Infocon, on le met au jaune par exemple, ça a en effet un effet important, parce qu'il y a aussi des organisations, par exemple dans l'armée américaine, des organisations où il y a des gens qui sont de garde, et quand le niveau passe de vert à un autre niveau, ces personnes de garde doivent automatiquement se rendre au boulot pour assurer la sécurité.
Alors, est-ce qu'il est déjà passé au rouge ?
De l'historique que j'ai consulté, non. En fait, les différents niveaux sont verts. Je veux dire, tout va bien. Quand je dis tout va bien, c'est-à-dire que les vulnérabilités sont tout à fait normales. Il y en a énormément tous les jours, mais elles ne sont pas aussi critiques que l'on pourrait croire. Le niveau jaune signifie qu'il y a, le bon exemple, c'est une 0D qui est dans la nature pour un produit commun, style Windows, un browser, un navigateur très connu, etc. Le niveau orange, il y a une peut-être il résume le niveau orange comme étant une bonne partie d'Internet non utilisable. Donc on pourrait imaginer le niveau orange comme étant quelques routes serveurs DNS, ou la moitié des routes serveurs DNS qui seraient non disponibles. Et le rouge, c'est Internet est mort. Pour résumer, le rouge, c'est vraiment la condition, c'est la guerre thermonucléaire totale, comme on pourrait dire dans un film d'Hollywood bien connu. L'historique que j'ai consulté depuis plusieurs années, il n'est jamais passé au-dessus de jaune.
Heureusement.
Heureusement, oui.
Mais du coup, le rouge, on ne pourra pas le consulter.
Voilà, le jour où il est rouge, on ne pourra pas le consulter parce que tu n'auras pas accès au site. Pour résumer la situation.
Hervé Chauveur, tu voulais ajouter quelque chose?
Mais il y a un truc que je comprends pas là dans le système. Ça, on a l'impression que ça repose sur du bénévolat.
C'est du bénévolat, tout à fait.
Comment? Parce que vous êtes pas du tout rémunéré pour. C'est quand même un peu un travail.
Alors, moi déjà, donc on pourra peut-être discuter après de la procédure pour devenir handler. Il y a toute une procédure à suivre, et donc quiconque correspond aux différents critères peut devenir un handler. Mon expérience personnelle, j'étais un utilisateur et un visiteur du site depuis pas mal d'années, et la sécurité étant ma passion, j'adore partager, j'adore m'impliquer dans des projets, etc. Donc ça coulait de source pour moi de le faire. Voilà, donc le fait que ça soit rémunéré ou pas, ça n'est pas un problème pour moi. C'est clair que ça prend du temps. Un handler est de garde, donc on duty comme ils appellent, pendant 24 heures. Mais nous sommes libres de choisir quand nous sommes on duty. Donc si la semaine prochaine je n'ai rien de spécial mercredi,
C'est quand même extraordinaire comme système. Ouais. C'est quand même un système qui arrive à rendre un service de grande valeur avec des gens qui sont pas rémunérés.
Tout à fait.
C'est intéressant comme modèle et pour l'avenir.
Pour être complètement transparent, on a aussi quelques avantages à gauche à droite. Un exemple, l'Internet Storm Center faisant partie de l'organisation SANS qui donne des trainings. Ben, on a accès à des trainings d'une manière un peu plus facile, je dirais. Donc il y a quand même des avantages à gauche à droite. Mais au niveau rémunération, ce n'est rien du tout, c'est zéro.
Oui, mais il y a aussi quelques personnes qui sont professionnelles dans l'organisation du Internet Storm Center.
Oui,
il y a Johannes Ulrich, le grand chef, et il y a aussi quelques personnes, des assistants qui l'aident.
Il y a des sysadmins qui gèrent les plateformes, etc., comme des sysadmins d'une société tout à fait normale, bien entendu. Quand je dis qu'il n'y a pas de rémunération, ici nous parlons des handlers, hein, donc des volontaires qui prennent leur shift, leur tour de garde, et qui gardent un œil sur Internet, entre guillemets.
Alors, on parlait de Johannes Ulrich, on peut parler justement du podcast qu'il anime.
Mais voilà, donc ça c'est aussi un des services qui a une renommée, oui, clairement mondiale, il faut bien le dire, basée sur toutes les informations collectées de manière automatique, basée sur les informations reçues des visiteurs, des personnes donc qui participent, qui communiquent de l'information, et également basée sur des informations reçues de certains vendeurs, de certains développeurs, etc. Parce que on n'a pas encore touché ce point-là, mais nous avons également des contacts avec des grosses sociétés comme Microsoft, par exemple, qui nous communiquent des informations relatives, par exemple, au patch Tuesday. Donc, nous recevons les patchs, la liste des patchs un petit peu en avance, et ça nous permet de compiler, d'avoir une bonne visibilité de ce qui va se passer. Et donc, cette compilation d'informations donne un podcast quotidien. Donc quotidien, donc tous les jours de la semaine, de quelques minutes, qui résume la situation du niveau de sécurité globale d'Internet. Et c'est un podcast qui a énormément de succès parce que beaucoup de gens l'écoutent le matin dans les transports en commun, dans la voiture, en arrivant au bureau, on boit son café, on écoute Johannes, et en 3 minutes, on est au courant des dernières vulnérabilités, etc., de ce qu'il se passe.
Et en fait, c'est chaque jour ouvrable la semaine. Donc c'est pas pendant le week-end ni les jours fériés.
Oui, par exemple, cette semaine-ci, c'était le 4 juillet, ben, aux États-Unis, personne ne travaille, donc il n'y a pas eu de podcast, je pense.
Non.
Enfin, c'est vraiment un podcast qu'on recommande à nos auditeurs, qui, s'ils ne connaissent pas, en fait, auront plaisir à l'écouter. Le seul inconvénient, c'est qu'il est en anglais.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est anglophone. Hein,
il est en anglais, mais honnêtement, Johannes ne parle pas trop vite, a une bonne diction, et c'est vraiment abordable pour pas mal de personnes. Il y a pas d'accent texan, etc., ou un accent écossais comme on peut entendre parfois. Donc c'est très 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 abordable.
Alors lundi No Limit Sécu, mardi Internet Storm Center.
Tu peux faire les deux parce que en fait le podcast de Johannes, en fait, il dure quelques minutes.
Oui, c'est 3-4 minutes maximum.
C'est le bulletin météo du matin. Avec un accent, je confirme, c'est un accent avec une teinte d'accent allemand, ça se comprend très bien pour un francophone.
Ouais. Alors, quelques mots sur le blog peut-être ?
Alors, le blog, mais lorsque l'on est de garde, le handler a toute une série de tâches à effectuer, donc forcément être joignable, répondre aux emails le plus vite possible, consulter les sites de news et compiler des informations, et la tâche peut-être la principale est d'écrire un article, un diary comme il le nomme, pour être exact, et cet article doit être peut-être technique, peut-être sur de la sécurité offensive, sur de la sécurité défensive, peut être une best practice, peut-être le résumé d'un événement, d'une conférence, des choses comme ça, mais doit être posté une fois par jour. Donc en fait chaque personne, donc chaque volontaire forcément poste des articles qui sont relatifs à ses hobbies, parce que donc comme nous sommes une trentaine de personnes, on a ce qui fait la force de l'Internet Storm Center, c'est qu'on a vraiment des profils qui sont très diversifiés. Donc on a des personnes qui sont plus C-level, on a des personnes qui sont plus techniques, des personnes qui sont plus orientées Unix, Windows, Malware Analysis. Didier fait ses articles qui sont absolument géniaux dans son domaine, etc. Moi, je fais les articles également sur ce qui me plaît le plus. Et ça permet une diversité. Donc le matin, c'est le podcast et en même temps, regarder le diary. Et on a chaque fois des informations toutes fraîches à se mettre sous la dent et... Pour bien démarrer la journée.
Ce diary, en fait, c'est comme un journal de bord public des handlers.
Oui, c'est bien résumé.
Donc, si j'ai bien compris, c'est disponible tous les jours de la semaine, y compris le samedi et le dimanche.
Oui,
tout à fait.
Chaque jour.
Oui. Donc la personne qui est de garde doit, pendant son temps de garde, doit écrire son diary. Et si je suis disponible dimanche, eh bien le dimanche je vais poster mon article sur le site. Qui, si je n'ai pas beaucoup de temps, ça sera peut-être un article de 10-20 lignes. Si j'ai eu un petit peu plus de temps, ou si j'ai vraiment quelque chose de croustillant à raconter, ou j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant, ben ça va peut-être prendre, je ne sais pas moi, 2000 mots, 500 mots. Il n'y a pas vraiment de limitation. Maintenant, on ne demande pas non plus d'écrire du kilomètre. Les gens aiment bien, c'est direct, ça doit être concis, précis, et vraiment raconter quelque chose qui soit utile pour les lecteurs du site, bien entendu.
Ouais. Et ce qu'on aime aussi, c'est que les gens postent des commentaires. Souvent, quand je fais une entrée dans le diary, hein, Je demande à la fin si les gens ont des remarques ou s'ils veulent bien poster leurs commentaires avec leurs réactions ou leur expérience concernant le sujet dont je parle dans le diary.
Donc là, c'est un appel.
En effet.
Mais c'est un appel, mais attention, personne ne peut se targuer de tout connaître et d'être au top dans un domaine. Donc, je trouve que c'est très constructif quand on poste un diary, que quelqu'un poste un commentaire en disant, ah ben voilà, moi je te conseille d'utiliser ce service ou cette URL ou bien tel outil open source le fait d'une autre manière ou est disponible, ben on apprend tous les jours également, donc c'est très très instructif.
Alors en parlant justement d'échange, donc il y a un forum aussi qui est disponible.
Alors il y a un forum qui contient différentes rubriques. La rubrique la plus active étant la rubrique du diary, puisque à partir du moment où on poste l'article, ça devient un nouveau fil d'actualité dans le forum. Et donc chaque fois que les gens y répondent, ben, le forum s'alimente. Les forums sont de manière, je ne les connais pas tous par cœur, mais c'est une organisation un petit peu classique. Il y a pentesting, il y a discussion sur des vulnérabilités, discussion un petit peu plus générique sur la sécurité, etc. Il y a également une rubrique avec toutes les news. Donc il y a des parseurs qui scannent les sites de news. Donc c'est aussi un job du handler, c'est que on a une page avec toutes les news qui sont répertoriées, et alors on peut valider et augmenter, donc cliquer sur les news qui nous paraissent les plus pertinentes pour augmenter leur score et finalement les afficher au top de la liste toujours dans le but de... Je pense que le but, c'est que lorsque la personne vient sur le site, donc isc.sense.org.edu, elle a vraiment un tableau de bord complet de ce qui se passe au niveau de la sécurité, donc les news, les diaries, des graphiques avec le top 10 des ports, le top 20 des réseaux, donc des réseaux les plus malicieux, etc. C'est vraiment un point d'entrée que beaucoup de... Je sais que beaucoup de gens utilisent cette page, par exemple, comme la page par défaut dans leur navigateur.
Donc vous gérez pas mal de projets. On a parlé de l'InfoCon, on a parlé de DeShield. Peut-être un peu plus de choses sur DeShield.
Oui.
Nous rappeler...
Voilà. Mais en fait, DeShield, on pourrait le comparer à un système de log management mondial. Donc dans pas mal d'entreprises à l'heure actuelle, mais finalement après des années, on commence quand même à voir je ne vais pas citer le nom pompeux de SIEM, mais les gens finalement ont compris la valeur ajoutée de concentrer les logs, de capturer les logs un petit peu partout dans leur infrastructure. Et en fait, DeShield applique ce genre de choses, mais au niveau mondial. Donc,
y a aussi les opérateurs, les geeks, etc., qui font ça au niveau mondial.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le but. Donc, tu as ta petite infrastructure à la maison avec un routeur de marque X, Y ou Z, ou bien une solution open source. Tu peux downloader, installer un client DeShield qui, lui, va récupérer les logs de ta plateforme et les envoyer chez nous. Et à ce moment-là, nous, on va s'occuper de compiler toutes les informations. Et les infos qui sont remontées sont relativement simples. C'est le source port, source IP address, destination IP address port, et avec différentes features. Par exemple, il y a des sociétés qui ne désirent pas remonter leurs IP publiques, donc il y a des moyens d'anonymiser les adresses IP que l'on renvoie. Donc les attaquants, les adresses IP seront connues, mais les personnes qui ont été attaquées, en fait, le premier byte de l'adresse IP est remplacé par 10, et donc on a un 10.23.50.10, par exemple.
Et c'est remonté chiffré ou c'est remonté en clair?
C'est remonté chiffré. Il y a différentes manières de le remonter. On peut le remonter par une connexion donc protocole HTTP HTTPS. On peut le remonter par mail également. Donc les personnes qui disent moi je n'ai pas la possibilité ou je ne désire pas communiquer en HTTP, on peut envoyer les logs via mail avec un fichier attaché vers une adresse bien précise. Et ce qui fait la force des clients DeShield, c'est qu'ils existent pour une multitude de produits. Donc tous les grands firewalls, les grandes marques, tous les petits routeurs, style les D-Link, etc., sont supportés. Tout ce qui est également operating system, donc les IP tables au niveau Linux, les packet filters de BSD. Et alors, ce qui fait vraiment la force de DeShield, c'est que il y a toute une documentation qui explique comment écrire son propre client DeShield si on a un matériel qui est vraiment exotique ou bien si on veut l'adapter à une infrastructure particulière. Et l'exemple bien concret que je donne, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années. Moi, je suis un grand fan d'OSSEC. Donc une solution de log management. Donc moi je remonte tous mes logs, firewall, VPN, etc. sur mon serveur OSSEC. Et donc plutôt que de collecter une deuxième fois au niveau de mes firewall et d'envoyer DeShield, ben j'ai écrit le client DeShield qui se connecte à mon OSSEC et c'est mon OSSEC qui envoie toutes les informations directement à l'ISC.
Il y a des gens qui font remonter des informations de systèmes dits industriels, de firewall dits industriels, de systèmes qui, en apparence tout du moins, sont pas connectés à Internet. Ou alors, c'est uniquement des gens qui sont
on
visibles.
En sait rien. On n'en sait rien, oui. Parce qu'on a simplement source IP address, destination IP address, le protocole, le port. Enfin oui, j'avais oublié de dire ICMP, TCP, UDP. Donc on ne sait. On peut remonter l'information que l'on peut savoir, c'est cette adresse IP a été remontée par le compte, donc l'ID X. Cet ID X correspond au compte qui est lié à l'adresse email Y. Mais si la personne s'est enregistrée avec un compte toto@gmail.com, voilà, on n'a pas plus d'informations. Le but n'est pas.
Et c'est l'Internet Storm Center qui contrôle ce big data, parce que c'est quand même une collecte de données extraordinaire, ça.
Ah, c'est extraordinaire, tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est dans une grosse base de données. Alors, cette base de données, elle est disponible, entre guillemets, publiquement via une API. Donc, n'importe qui peut aller demander, tiens, quel est le statut de telle adresse IP? Et à ce moment-là, on va pour telle adresse IP publique, on va remonter des informations du style depuis quand a-t-on détecté la dernière attaque? Donc une attaque, c'est-à-dire que l'adresse IP a été remontée par quelqu'un sur Internet comme étant bloquée par un firewall. Donc si maintenant quelqu'un s'amuse à scanner des adresses IP en France sur le port 22, par exemple, pour chercher des serveurs SSH qui sont ouverts, si les sociétés ou les personnes qui sont attaquées remontent cette information auprès de l'ISC, ben nous allons détecter que cette adresse IP, elle a scanné X adresse IP sur le port 22 autant de fois depuis autant de temps, et alors il y a un algorithme, il y a une formule qui était, c'est, tout ça est bien expliqué, c'est transparent sur le site de l'ISC, et donc on calcule un index pour cette adresse IP qui est de 1 à 10. 1 étant, enfin non, je crois quand même que ça commence à 0. De 0 étant, ben ce n'est absolument pas dangereux, on ne connaît pas cette adresse IP là, jusqu'à au niveau maximum où là on sait vraiment que c'est une IP qui est reconnue comme étant utilisée par des petits Chinois, des petits Brésiliens, etc. pour scanner massivement ou faire des attaques.
Oui, donc c'est vraiment des shields, un système qui peut tourner sur beaucoup d'environnements. Je crois que Xavier, que toi tu as aussi expérimenté avec des shields sur un Raspberry Pi. Hein.
Alors, un des projets que Johannes a publié récemment, la valeur de la base de données de l'ISC dépend forcément de ce que les utilisateurs nous envoient. Donc plus on nous envoie des logs et plus les logs sont pertinents, plus la base de données aura forcément une valeur pertinente. Donc le but, c'est de demander aux gens, je peux aussi peut-être lancer un message à tous les auditeurs du podcast, si vous avez un petit peu de bande passante à partager, c'est vraiment minimum, vous avez une adresse IP publique qui peut faire tourner un port SSH, un port HTTP, un des projets est de faire tourner un Honeypot sur un Raspberry Pi, tout simplement. Donc ça ne consomme pas d'électricité, ça ne consomme rien, ça ne chauffe pas, ça peut se placer sous un bureau, dans un rack, et toutes ces informations collectées sont remontées vers l'ISC.
Alors, tu parlais de logs de firewall, mais est-ce que vous récupérez aussi, par exemple, les logs des serveurs web ?
Alors, il est possible, donc il y a des honeypots qui remontent les requêtes HTTP. Un autre projet que je trouve très intéressant, c'est le projet 404. Donc en fait, il est possible également, donc si vous êtes l'administrateur d'un serveur web, et que une page par défaut, donc lorsqu'on il y a une requête vers une page ou un objet inconnu qui est reçu par le serveur web, on peut en général, le serveur web qui est bien propre, renvoie vers une page qui dit voilà, message d'erreur 400, le fameux 404, c'est cette page ou cette image ou ce fichier n'existe pas. Et en fait, il est possible de rajouter un petit bout de code PHP, c'est en PHP, mais c'est très facile à implémenter dans d'autres langages, qui va remonter l'URL de l'objet qui n'a pas été trouvé. Et alors, c'est une source d'information fabuleuse, parce que ça permet de remonter tous des scans, par exemple. Donc, lorsque quelqu'un s'amuse à scanner ou à faire des recherches sur, des fichiers de backup, donc quelqu'un cherche des backup.zip ou bien website.zip ou des choses comme ça, s'il scanne des milliers de sites web, mais on a la chance, on va certainement remonter cette information-là parce qu'on aura énormément de sites qui vont remonter une erreur 404 correspondant à ce fichier. Ce que l'on remonte aussi, ce sont les headers HTTP que l'on peut également collecter, qui sont aussi une valeur, qui ont une valeur assez intéressante, parce qu'on peut, par exemple, faire du fingerprinting, donc détecter quels sont les types de sites web utilisés, de l'Apache, de l'IIS, NGX, est-ce que c'est un reverse proxy, et autre chose. Ça peut parfois remonter des cookies intéressantes, ça peut remonter également des headers vraiment spécifiques, parce que certaines applications, parfois, les développeurs implémentent leur propre header X-quelque chose, et donc ça permet de... Le but est vraiment d'avoir une visibilité possibilité est d'acquérir des data pour ensuite les processer et faire quand on a le temps, faire un petit peu de recherche, de veille, et parfois on trouve des trucs assez sympas.
Et ce qu'il y a aussi, c'est que donc avec toutes ces informations, on fait des listes, on compile des listes, par exemple d'adresses IP, desquelles on voit pas mal d'activités malveillantes. Hein. Mais en fait, on a ces listes-là, mais ces listes ne sont pas destinées à utiliser comme blacklist pour bloquer. Mais malheureusement, il y a certaines personnes ou certaines organisations qui vont quand même utiliser ces listes-là qu'on fournit pour utiliser ça comme blacklist dans leur système. Et ça, c'est déconseillé parce que on n'a pas créé ça dans un but de faire des blacklists.
Et pourquoi c'est déconseillé ? Ça peut générer du faux positif ?
En effet, il peut, par exemple, y avoir du faux positif.
Et à partir du moment où quelqu'un l'utilise en blacklist, celui qui veut du mal, il fait les usurpations qui vont bien pour mettre quelqu'un dans une blacklist.
Ah, tout à fait. C'est très facile très facile. Ça prendra un petit peu de temps parce que la masse d'informations est tellement importante que si on désire blacklister telle adresse IP, je pense qu'il faudra générer quand même pas mal de trafic, mais techniquement, il est possible d'augmenter le l'indice de criticité d'une adresse IP d'une manière faussée.
Pour l'ISC, c'est pas possible parce que ça créerait un risque juridique. Donc l'ISC, de toutes les manières, ne peut que dire surtout ne faites pas ça.
Parce c'est que écrit noir
qui
sur blanc.
Les victimes pourraient attaquer. Donc
c'est écrit noir sur blanc de ne pas utiliser ces listes d'adresses IP comme source de blacklist, mais les gens le font. Et à titre d'anecdote, sans donner trop de détails, il y a quelques mois, c'était mon shift. Et quelqu'un nous contacte en disant voilà, rappelez-moi le plus vite possible parce que nous sommes déconnectés d'internet, on n'arrive plus à surfer, etc. ou on n'arrive plus à joindre le site de tel partenaire. Et en fait, l'adresse IP publique d'un proxy avait été blacklistée, soi-disant, et il y avait 2000 personnes derrière ce proxy qui ne pouvaient plus atteindre un service qui était important pour leur business. Donc non, c'est ne pas l'utiliser parce que ça peut poser des problèmes réellement. Oui. Parce que si maintenant quelqu'un, même au sein de la société, donc quelqu'un qui se trouvait derrière ce proxy s'est amusé à faire tourner un scanner et à scanner la moitié d'Internet en passant par ce proxy, ben forcément l'adresse IP de ce proxy se retrouvera dans la liste des IP soi-disant malicieuses et le risque n'est pas nul, clairement.
Oui, même chose pour un firewall.
Ou le firewall, bien sûr, l'adresse IP utilisée pour natter en sortie les 10 000 postes clients qui sont sur le réseau en interne, c'est clair que cette adresse IP-là, à un moment ou à un autre, pourrait être considérée comme malicieuse, parce que elle aura généré tellement de trafic que ça sera repris dans la base de données. Maintenant, cette fameuse base de données, donc il n'est pas recommandé de l'utiliser comme blacklist. Par contre, la base de données peut être utilisée à titre de recherche. Donc, régulièrement, des personnes nous contactent en disant, voilà, dans le cadre d'un mémoire, dans le cadre d'un travail d'université, etc., je voudrais un petit peu avoir une visibilité au niveau des port scans, de l'activité de certaines IP, de certains ports, etc. Est-ce que je peux avoir accès aux données ? Il est possible d'avoir accès à des données dans ce cadre-là.
Puis ce qui est intéressant, c'est quand même dans l'autre sens, c'est vérifier ce qui sort de ses propres ranges d'adresses et voir si on n'est pas blacklisté quelque part. Enfin, potentiellement blacklisté par des gens qui utiliseraient mal la liste de l'ISC.
Bien entendu, connaissant tes adresses IP, donc tu connais tes ranges publics, ben tu peux très bien faire un script et interroger l'API une fois par jour et avoir un petit graphique qui te donne presque en temps réel le niveau de criticité de tes adresses IP, bien entendu, c'est tout à fait faisable. Je trouve que ça devrait être même recommandé.
C'est d'usage d'ailleurs, non ?
Mais moi, ça me paraît logique de le faire. Moi, je le fais. Je monitore et on sort un peu du cadre de l'ISC, mais moi, je monitore tout ce qui me représente sur Internet. Mes noms de domaine, mes adresses email, mes logins, je les monitore pour voir s'ils ne sont pas dans des bases de données à gauche, à droite. Donc ça fait partie pour moi des bonnes pratiques.
Alors comment tu fais pour monitorer tes logins?
En étant donc dans le domaine de la sécurité, etc., on a accès à pas mal d'infrastructures, mais monsieur tout le monde peut simplement définir une Google Alert sur ses adresses email, sur son nom, et Google va simplement renvoyer un mail quand Google, le moteur de recherche, aura détecté une chaîne de caractères bien particulière. Ça, monsieur tout le monde peut le faire, c'est complètement gratuit. Et ça marche super bien.
D'accord.
Moi, à titre personnel, je monitore les sites de tout ce qui est les sites Pastebin et Enco. Donc, je reçois un feed contenant, je crois, une trentaine de sites de pastilles, comme on les appelle. Et alors, j'ai une série de regular expressions où je cherche mes logins, mes noms de domaine, tout ce qui me correspond. Et encore, à côté, bien entendu, je cherche plein d'autres choses super intéressantes. Mais ça, c'est hors cadre de la conversation aujourd'hui.
Donc, ça peut être une façon de rentrer en contact avec toi.
Oui, parce que des gens ont déjà fait le test. Ils ont testé. Et en fait, ils ont écrit un truc sur moi en voyant si j'allais catcher l'adresse email ou l'article. Ils ont posté, des amis avaient posté un truc sur Pastebin avec vraiment des références, et alors tu l'as vu, forcément, parce que ça clignote chez moi, et donc voilà.
Ok.
En fait, Xavier, ce dont tu parles, c'est un programme aussi que tu as fait et qui est libre et que tu publies. Hein.
Oui, c'est un programme que, en fait, le programme que j'ai fait, donc ça s'appelle toujours Pastemon, qui permettait de monitorer le site Pastebin. Donc simplement, il downloadait toutes les pastilles qui étaient postées sur le site web. Mais honnêtement, un ami donc que tu connais, Christophe, a développé une autre version de l'outil qui fait plus ou moins la même chose, mais qui lui est beaucoup plus modulaire, plus performant que le mien. J'ai pas peur de le dire. Et donc j'ai switché et j'utilise le sien.
Okay.
Et voilà. Mais oui, mais c'est vrai que j'ai écrit un outil qui permet de faire ça, et toujours dans le but de collecter des informations juteuses et intéressantes, toujours dans le cadre de la sécurité, dans un cadre légal, bien entendu.
Oui, il y a quelques années, j'ai exactement fait la même chose. Et ce qui est aussi intéressant pour savoir, c'est que quand j'ai écrit mon propre programme pour faire ça, j'ai aussi contacté les personnes qui gèrent le site de Pastebin, et je leur ai dit je veux faire du monitoring, hein, donc je veux faire du scraping des pastis par exemple chaque minute. Et quand je leur ai demandé ça, mais bon, il y a quand même déjà quelques années, ils n'avaient aucun problème avec ça.
Alors moi, je n'ai pas eu cette chance, parce qu'ils n'ont jamais répondu positivement. J'ai fait la même demande, ils n'ont jamais répondu positivement, donc j'ai trouvé une alternative, et je reçois un feed de pastis d'une trentaine de sites équivalents à Pastebin via un système ZMQ. Donc c'est un système queuing, et donc je reçois ça sur une machine qui 24x7 scanne toutes les pastilles qui sont reçues, et c'est encore plus performant maintenant. Mais j'avais eu la même demande, mais Pastebin n'avait jamais répondu. Si on veut vraiment un accès complet au site Pastebin, il faut passer par le Pastebin Pro, qui est payant. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est que si on veut faire du scraping comme ça, ils te donnent une autre adresse IP, parce qu'ils sont protégés, je crois, par Cloudflare. Et ils ont des adresses IP qui ne sont pas protégées par Cloudflare et qui dédient à leurs clients pro, entre guillemets, qui peuvent eux alors à ce moment-là faire vraiment des requêtes importantes, et vraiment faire du scraping de tout le site web.
Et vous deux, en tant qu'observateurs privilégiés de l'internet, quel regard vous portez sur la multiplication des offres d'analyse de la menace, Threat Intelligence, tous ces gens-là qui vous vendent des services qui vont vous prévenir à l'avance que vous êtes sous attaque, que vous allez être attaqué. Vous, en ayant cette vision globale de la situation, comment vous jugez ou vous percevez ce type de service?
C'est mon point de vue personnel. Moi, je trouve que ce genre de site n'est pas utile pour moi, parce que je les consulte de temps en temps, ou ce que je fais en général, c'est que ce sont des sites au niveau commercial, ils ont toujours des offres promotionnelles, des offres de tests pendant une semaine, 15 jours, 3 mois. En général, je souscris. Comme ça, je vois un petit peu ce qu'il me remonte comme information. Et à l'heure actuelle, je n'ai jamais trouvé une information, j'ai jamais reçu une information qui avait de la valeur pour moi. Maintenant, donc ça, c'est dans mon expérience personnelle, dans le cadre de mon activité. Maintenant, forcément, j'ai accès aussi sur le côté à mes propres informations. Mais maintenant, dans l'autre sens, je pense que pour une société qui n'a pas les compétences en interne ou qui n'a pas le temps matériellement de commencer à lire ou faire une review de site web ou par exemple d'écouter le podcast tous les matins de Johannes, etc., je pense que ça peut être utile. On peut comparer ça un petit peu aux services de presse qui existent. Il y a pas mal de sociétés qui font des revues de presse. Donc on dit voilà, moi je suis la société Tartampion, mon nom de domaine c'est tartampion.fr, j'ai mon produit X, Y ou Z et je veux avoir tous les matins dans ma boîte mail un résumé de tous les articles de presse où mon nom apparaît ou encore mieux la concurrence apparaît pour faire du suivi de mes concurrents, etc. Je pense que ça peut être utile pour certaines sociétés, mais moi personnellement, je vois pas de valeur ajoutée, non.
Oui, de mon côté, dans ma vie professionnelle, j'ai déjà vu quelques exemples et qui remontaient quand même l'information sur la société, mais pas terriblement important. Je n'ai pas d'exemple de service où ça a vraiment eu un impact important les informations qu'ils ont fournies.
Alors, en parlant de services, justement, ou plutôt de projets, on a évoqué une bonne partie des projets que vous gériez. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Je n'en vois pas. En fait, ce que je pourrais conseiller, c'est donc aux auditeurs qui ont envie un petit peu de voir les différents services. Il y a énormément de pages qui sont disponibles sur le site web. C'est d'aller y faire un tour parce que il y a des cartes dynamiques. Donc il y a quelques mois, je pense, des cartes dynamiques ont été rajoutées. C'est la carte classique qui représente le monde et qui donne par pays un espèce de niveau d'alerte, combien d'adresses IP, combien d'attaques nous avons détectées, etc. Et ces informations sont construites sur la base de données qui contient les informations remontées par des shields. Donc il y a énormément de petites pages comme ça à gauche à droite. Quelques informations par rapport au site. Ce qu'il faut savoir, c'est que Johannes a justement posté tout à l'heure quelques statistiques, c'est vraiment bien tombé juste avant l'enregistrement du podcast. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plus ou moins 35 000 IP différentes qui visitent le site chaque jour pendant la semaine, et entre 20 et 25 000 le week-end. Donc on peut pas, derrière une adresse IP, ça peut être un proxy avec 10 000 personnes, 50 personnes, donc on peut pas dire quel est le nombre de visiteurs, mais il y a en semaine, c'est environ 35 000 IP uniques qui consultent le site web. Et alors pour donner au niveau dimensionnement, au niveau de DeepShield, par jour, il y a entre 2,5 et 3 millions de d'adresses IP sources qui sont remontées. Et entre 60 000 et 70 000, je le dis en français, je fais la conversion en français en temps réel, entre 60 et 70 000 cibles par jour qui sont remontées par DeepShield. Donc c'est quand même un beau paquet de data.
Oui, en parlant de services, je veux simplement aussi ajouter, on est aussi présent sur Twitter. Donc il y a un account du Internet Storm Center sur Twitter, c'est le sans_ISC.
Et lui, il y a deux tweets qui sont classiques tous les jours. C'est de un, il y a un tweet qui est un lien vers le blog post, l'article du jour, et en général un tweet vers le podcast du jour. Donc il y a minimum deux tweets par jour. C'est un compte Twitter qui n'est absolument pas intrusif. Donc le compte Twitter n'est pas utilisé pour retweeter à longueur de journée des informations. C'est vraiment succinct et c'est vraiment des informations critiques quand quelque chose de critique se passe sur Internet, ou alors informatif, le podcast et l'article quotidien.
Donc tout à l'heure tu parlais des handlers. Donc si jamais un de nos auditeurs ou même plusieurs souhaitait devenir un handler, à quelles exigences doivent-ils répondre ?
Alors
avoir du temps.
avoir du temps. Le premier point, on l'a peut-être pas encore mentionné depuis le début du podcast. L'Internet Storm Center est très orienté États-Unis. C'est vraiment américain.
Comme l'Internet.
Ben oui, voilà, comme l'Internet. Donc, pour l'instant, en Europe, je crois qu'il y a 4 handlers qui sont actifs. Donc Didier et moi-même, donc 2 en Belgique. Il y en a 1 en Suisse et il y en a 1 en Croatie, je pense. Tous les autres sont basés aux États-Unis ou au Canada. Donc la première condition, c'est qu'il faut pouvoir parler anglais, pouvoir écrire en anglais. Ce n'est pas mentionné sur le site parce que, je veux dire, pour eux, ça coule de source, mais c'est la première condition.
Maintenant, tu as raison, c'est vachement important avec un public francophone.
c'est pour ça que je me permets de le dire, de le mettre en avant, parce que les articles sont rédigés en anglais, toutes les communications sont faites en anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir des appels téléphoniques de temps en temps, et donc pas devoir participer à des conf calls. Tout ça se fait en anglais, bien entendu. Donc maintenant, si on met de côté la barrière de la langue, les différentes conditions sont, mais comme tu disais Hervé, il faut du temps. Voilà, il faut pouvoir dégager du temps. Donc comme je le disais auparavant, un shift c'est 24 heures.
Mais on dort aussi pendant ces 24 heures.
Ah oui, bien sûr.
On reste pas, bien entendu.
Mais je veux dire, pendant ces 24 heures, il faut lire son mail d'une manière plus régulière, il faut être un petit peu plus attentif. Mais ce n'est pas 24 heures non-stop, bien entendu, à rester les yeux rivés sur son écran. Alors, ce qu'il faut pouvoir, rédiger. Donc, idéalement, il faut être un blogueur, pouvoir rédiger des articles intéressant dans le domaine de la sécurité, et ça de manière indépendante. Ils insistent là-dessus parce qu'il y a certaines personnes qui, dans le cadre de leur contrat de travail, la moindre chose qu'elles publient doit être révisée par la société, un département juridique, un département marketing, que sais-je. Ici, vous devez être à même de pouvoir travailler de manière indépendante, c'est un petit peu extrême de dire censure, mais pouvoir écrire de manière indépendante. Au niveau pratique, il faut avoir au minimum une certification SANS, donc il faut être certifié, une certification minimum, et il faut avoir au moins rencontré un handler, comme ils disent, in real life, donc de visu.
Mais une certification n'importe laquelle, parce qu'il y a quand même des certifications pour débutants.
Oui, n'importe laquelle. Il en faut une.
Ah oui, c'est bien ça.
Voilà. Il y a pas de compétences exigées. Donc il faut pas être un gourou TCP/IP, il faut pas être un gourou du reverse.
Oui, j'essaie que ça suffit, quoi.
Tout à fait, ça suffit. Donc il faut connaître un handler. Il faut donc avoir rencontré.
Non mais là, vous, tous les auditeurs en connaissent deux.
Voilà. Visuel, donc in real life, fait. Comme on dit. Donc il faut les avoir rencontrés.
Bon ben on va vous inviter à Paris alors.
J'y étais hier. quelles sont les conditions encore? Il faut que je ne dise pas de bêtises.
Mais je crois qu'elles sont publiées sur le site. Hein.
La procédure se trouve sur le site. Oui. La procédure. Donc, lorsque il y a un mail, si maintenant, d'une manière pratique, quelqu'un désire devenir un handler. Ça commence par l'envoi d'un mail où c'est tout à fait naturel, on se présente. Moi, je travaille dans telle société, je fais ça, j'ai un blog, j'ai déjà écrit dans telle revue, j'ai développé tel outil open source, je fais attention à ça, je fais du pen test, j'aime bien les malwares, j'aime bien tout ce qui est le log management, j'aime bien le social engineering, donc se décrire. Il y a forcément la candidature est revue et discutée entre nous, donc chacun donne son avis. Donc oui, moi je connais cette personne, je l'ai rencontrée à tel event, dans telle conférence, j'ai travaillé avec elle, j'utilise son produit, on a chatté sur IRC, il y a vraiment une revue et une discussion. Et lorsque la personne est acceptée, la phase d'apprentissage entre guillemets, c'est d'écrire ce qu'ils appellent des guest diary. Donc c'est un article qui sera publié sur le site de l'Internet Storm Center, mais on ne sait pas quand. Donc, en fait, le côté pratique, c'est que ça nous permet, nous, lorsqu'on n'a rien de spécial à dire, parce que parfois, le syndrome de la page blanche, ben, ça peut arriver chez tout le monde. Et donc, lorsqu'on n'a rien de spécial à dire, il y a toujours un guest diary qui est prêt. Et à ce moment-là, on le publie. Et au bout de j'en avais posté 3 de mémoire avant de devenir officiellement un handler. Et, si ça se passe bien, c'est surtout une relation de feeling, hein. Donc, il n'y a pas de contrat signé, rien du tout. C'est vraiment, ça se fait de manière très, très simple. Et, au bout de X, guest diary, et bien voilà, on devient officiellement handler, et donc on a sa belle photo qui se trouve sur le site avec une petite biographie, son lien Twitter, son adresse email, et alors c'est parti, on prend des shifts. Alors au niveau des shifts, normalement, comme Didier disait, il y a donc 27, mais alors disons, allez, si on arrondit à 30, cela voudrait dire que normalement, une personne devrait être de shift une fois par mois. Donc 30 handlers, 30 jours par mois, donc ça fait une douzaine de shifts sur l'année. Il y a des handlers qui sont plus actifs, moins actifs, etc. Moi, c'est personnellement, si j'ai le temps, je n'hésite pas à prendre des shifts parce que j'ai toujours quelque chose d'intéressant. Enfin, j'ai vite quelque chose à raconter, donc je prends des shifts assez rapidement. Maintenant, je n'ai rien à dire pendant 3 semaines ou 1 mois, ben, je ne vais pas être de shift pendant 1 mois, tout simplement. Donc, c'est très, très libre. On n'a pas de contraintes à ce niveau-là.
Oui. Xavier est un des handlers les plus actifs.
Ben, c'est Johannes le plus actif.
Johannes, oui.
Mais parce qu'il est souvent aussi backup, hein, c'est le default handler quand personne n'est de shift.
Alors en moyenne, est-ce que tu peux quand même donner une petite un chiffre, je sais pas ce qu'il faut prévoir, un jour par mois ou plus 2 jours par mois, enfin
je crois que je suis peut-être 3 fois par mois. Didier, tu sais dire, je ne saurais pas dire, 3 fois par mois peut-être, une fois par semaine. Non, pas une fois par semaine. Non, presque. 3 fois par mois.
Ouais.
Parce que pour l'instant, ben, mes activités me permettent de le faire. Maintenant, si le mois prochain, je suis vraiment surbooké par le boulot et que je ne peux pas donner de mon temps à l'Internet Storm Center, ben, je ne serai pas de shift pendant 1 mois, tout simplement.
Ouais. Et aussi, quand on fait un shift, et c'est surtout important, quand on commence, on n'est jamais tout seul. Hein. Il y a toujours d'autres handlers qui lisent aussi les mails et qui réagissent aussi. C'est pas non plus le but que c'est uniquement le handler de la journée qui va répondre au forum et aux mails et tout ça. Hein. Il y en a plusieurs qui lisent leurs mails. Moi aussi, chaque jour, je regarde les mails. Et par exemple, s'il y a des questions ou des exemples de maldoc qui sont envoyés, ben certainement que je vais réagir, même si c'est pas mon shift. Et de temps en temps, ce que les gens envoient, je vais l'utiliser comme exemple d'un maldoc dans un diary prochain quand je fais mon shift.
Mais c'est une bonne remarque. En fait, lorsque une personne fournit de l'information, elle a détecté une attaque, elle a détecté quelque chose de bizarre, je dirais. Elle peut nous communiquer l'information. Et en fait, lorsqu'elle remplit le formulaire, il y a 3 champs qui sont très importants, qui spécifient si on peut de mémoire, si on peut communiquer son nom, si on peut utiliser l'information dans un diary. Et le 3e champ, Didier, c'est quoi? Je ne sais plus de mémoire.
Moi non plus, mais je vais regarder dans la mailbox.
Donc en fait, si la personne dit voilà, moi j'ai vu quelque chose de vraiment sensible, avec vous.
Si c'est un malware.
Si c'est un malware, voilà. Donc si elle dit, ce n'est pas un malware, mais vous pouvez pas utiliser mon nom, communiquer mon adresse email, enfin mes données personnelles, et ni le en parler dans un diary, on respecte ça, bien entendu. Donc il y a aussi un respect de la vie privée, parce que parfois, on a des informations qui sont relativement sensibles. Et je ne sais pas, Didier, si tu te souviens, pendant que c'était SenseFire, la discussion qu'il y a eu à un certain moment, il y a parfois des choses qui sont sensibles, donc on se doit aussi de respecter une certaine éthique et de ne pas divulguer les informations quand la personne ne désire pas.
Bon, a-t-on fait le tour ?
Ah oui, je pense qu'on a bien fait le tour là. Et en fait, l'intérêt pour Sens d'avoir fait ça, c'est pour la promotion, c'est pourquoi
comme je l'ai dit tout au début, il y a un besoin, les gens ont un besoin de pouvoir se référer à des informations entre guillemets officielles. Et donc, comme j'expliquais au début, quand tout a démarré avec l'attaque en 2001, ils se sont rendu compte que les gens attendaient ce genre d'information
c'est niveau... ça, c'est les premiers en fait qui l'ont fait, université ni un organisme public.
Voilà, l'Infocon dont on parlait tout à l'heure, donc le niveau de sécurité qui va de vert à rouge, mais il y a énormément de sociétés qui incluent ça dans un dashboard. Donc parce que ce niveau d'Infocon est disponible via l'API, donc via une simple requête HTTP, on récupère dans un format XML, on récupère le niveau d'Infocon, et donc on l'intègre dans un outil existant interne, donc dans un SOC, un NOC, etc. Et donc des gens l'ont en dashboard, en grand, sur un écran, dans leur SOC 24h/24.
Et je viens juste aussi me rappeler, je crois pas qu'on l'a mentionné, mais deux fois par semaine, on publie aussi une newsletter.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Et donc tout le monde peut s'abonner, bien entendu, sur le site.
Et le site de Sans, tout le monde peut se créer un compte. Et à propos de ce compte, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, donc avec DeepShield, si vous envoyez des informations, donc des logs via DeepShield, lorsqu'on se connecte sur son compte, on tombe par défaut sur une page de dashboard, donc une page de résumé où on génère des statistiques pour l'utilisateur avec le top 10 des ports qui ont été scannés sur son infrastructure, d'où viennent les IP sur une carte classique, donc la géolocalisation. Donc il y a une espèce de digestion de ces logs, et on propose comme ça une page par défaut qui est relativement sympa.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cet enregistrement. Chers auditeurs, nous espérons que ce podcast vous aura intéressé, et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.